Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Mercredi 28 janvier 2026, il est 6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab, quelle bonne idée. On refait un petit point sur les jeux concours du moment. Deux places à gagner pour la release partie de Mansion Sellers et Gondawa, c'est à l'UBU. C'est organisé par l'asso Goslico et c'est le jeudi 5 février dès 20h. Le mot de passe dont vous avez besoin pour jouer et pour gagner. Roman, Lafken, Estelle, le mot de passe
Je le dis tout le temps.
Attends, c'était quel concours alors?
Ah, tu l'as peut-être pas encore, celui-là, il est pas en ligne. Non, c'est pas celui-là.
C'est, oh, c'est le truc...
Sangxian.
Ouais, voilà.
Voilà, S-A-N-X-I-X-I-A-N. C'est un luth d'origine mongole dont jouent les musiciens de Gondawa. Et puis, deuxième jeu concours, deux places pour la Rennes Boxing Night. Ça, c'est un gala de boxe anglaise organisé par le Cercle Paul Bert de Rennes. C'est le samedi 14 février à 19h, salle Colette Besson. Mot de passe pour gagner à rentrer sur notre site.
Là, pressing. C'est pressing.
Oui, pressing. Est-ce que quelqu'un veut expliquer le pressing, ce que c'est ? Vous avez révisé ou pas ?
C'est pas pour laver son linge déjà.
Non.
C'est une technique pour déstabiliser le joueur en face.
Exactement. Bravo, Roman. Pour jouer et pour gagner, rendez-vous sur c-lab.fr. Et tout de suite, c'est le flash d'Estelle.
Nouvelle annonce de Donald Trump. Cette fois, elle concerne le Moyen-Orient. Hier, les États-Unis ont évoqué la possibilité d'une action militaire contre l'Iran. Washington prévoit un exercice aérien de plusieurs jours dans la région. Aucune date ni aucun lieu n'ont été précisés. En réaction, l'Iran prévient. Tout pays voisin dont le sol, le ciel ou les eaux seraient utilisés pour une frappe sera considéré comme hostile. Face à la pression américaine, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis interdisent toute utilisation de leur espace aérien. Côté américain, un premier porte-avions a été déployé lundi dans le golfe Persique. Une seconde armada serait en route selon Donald Trump. Va-t-on voir des agents de l'ICE sur la ligne de départ des Jeux Olympiques ? La police américaine de l'immigration pourrait être envoyée en Italie pour les JO d'hiver de Milan-Cortina. Une perspective vivement critiquée sur place. Ils ne sont pas les bienvenus à Milan, a réagi hier le maire de la ville Giuseppe Sala. Les autorités italiennes ont d'abord nié la présence d'agents de l'ICE avant de minimiser leur rôle, puis elles ont précisé que leur mission se limiterait à la protection du vice-président Jed Evans et du secrétaire d'État Marco Rubio. Tête à tête avec l'Allemagne hier, autour de la France aujourd'hui pour le Groenland. À Paris, Emmanuel Macron recevait ce midi la première ministre danoise Mette Frederiksen et le premier ministre du Groenland Jens Frederik Nielsen. À l'issue de la rencontre, le président français a appelé au réveil stratégique pour toute l'Europe. De son côté, Mette Frederiksen appelle Européens et Américains à rester unis sur les questions de sécurité dans l'Arctique. Une alliance fondée sur des valeurs démocratiques, insiste le Premier ministre groenlandais. Les énergies fossiles au centre de la géopolitique, mais aussi de nos assiettes. Si vous tartinez vos toasts de beurre le matin ou si vous huilez vos casseroles avec du colza et du tournesol, attention, vous consommez peut-être du pétrole. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale va examiner le rapport d'une mission flash au sujet de l'hexane, un solvant à la base de pétrole que l'on pourrait retrouver dans certains aliments. L'AFKEN fait le zoom sur ce produit chimique, la législation, le régulant et ses conséquences.
C'est cet après-midi que les co-rapporteurs de la mission Julien Gabaron du RN et Richard Ramos du Modem ont rendu leurs conclusions. Verdict, notre constat principal, c'est que l'hexane est un produit dangereux. Il est classé neurotoxique pour l'humain par l'Agence européenne des produits chimiques, a déclaré Richard Ramos. La commission a recommandé aujourd'hui d'imposer l'information si un produit contient de l'hexane et de se tourner vers des solutions alternatives. S'il confirme des découvertes plus anciennes sur le produit neurotoxique, le co-rapporteur Modem ajoute que l'hexane serait toxique par inhalation et contribuerait au développement des maladies comme Parkinson. Pour lui, au minimum, on doit informer le consommateur et attendre les prochains résultats scientifiques pour savoir s'il faut l'interdire. En septembre dernier, la Commission des affaires économiques a créé une mission flash. Le but, réagir rapidement à une problématique en donnant lieu à des auditions, puis à un rapport écrit. Les rapporteurs de la mission flash ont donc auditionné une trentaine de parties prenantes comme des industriels, des éleveurs et éleveuses, des journalistes ou des consommateurs et consommatrices.
Et ces découvertes et controverses, elles ne datent pas d'hier, c'est bien ça ?
Enquête journalistique, tribune de scientifiques, rapport de Greenpeace, cette mission parlementaire fait suite à de nombreuses révélations sur les dangers de l'hexane. En octobre 2024 déjà, l'agence sanitaire européenne EFSA estimait qu'il fallait réévaluer la toxicité de l'hexane et sa place dans notre alimentation. Toujours en 2024, la cellule investigation de Radio France avait constaté que sur 54 produits achetés en supermarché, 25 contenaient des traces d'hexane. Parmi ces produits testés en laboratoire, on trouvait du poulet, des œufs, de la margarine, du beurre et des huiles. Pire, cette étude montrait que des polluants comme les PFAS ou les pesticides étaient détectés à des taux 1000 fois plus faibles que l'hexane.
Mais c'est quoi exactement l'hexane ?
Produit chimique toxique utilisé depuis des décennies, l'hexane, c'est un solvant dérivé du pétrole. Problème, il est massivement utilisé par l'agro-industrie pour extraire des huiles végétales comme celles de colza, de soja ou de tournesol. Ces huiles sont ensuite vendues en supermarché. À cela s'ajoute un second problème, l'hexane permet d'obtenir de la nourriture extrêmement protéinée pour les animaux d'élevage. Des traces du solvant peuvent donc se retrouver dans le beurre, le lait même infantile, mais aussi dans le poulet. Des alternatives potentielles, notamment biosourcées, existent. Cependant, l'hexane reste le plus rentable pour les agro-industriels. En septembre 2025, Greenpeace a publié un rapport sur l'impact du produit toxique dans notre alimentation au quotidien. On y retrouve de nombreuses marques comme Elevir, Lesieur, Président ou Blédina.
Et quelles sont les conséquences de l'hexane sur notre organisme ? Pourquoi son utilisation fait débat ?
La France connaît une hausse des maladies neurodégénératives, une crise de la natalité, une progression inquiétante de l'obésité. Ce sont les mots du gastro-entérologue Jean-David Zeitoun, invité chez France Inter en octobre dernier lors d'une émission consacrée à l'hexane. Selon UFC Que Choisir et Greenpeace, ce solvant est reconnu comme toxique pour le système nerveux, comme potentiel perturbateur endocrinien et est suspecté d'être reprotoxique, c'est-à-dire qu'il pourrait altérer la fertilité de la personne qui le consomme ou le développement d'un enfant à venir. Il est également classé comme substance cancérogène, mutagène et reprotoxique par l'Agence européenne des produits chimiques. En 2014 déjà, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, préconisait aux femmes enceintes d'éviter toute utilisation de produits de bricolage ou d'entretien à base d'hexane.
Face à une réglementation qu'elle juge lacunaire et obsolète, la commission parlementaire dénonce des leaders agro-industriels qui ignorent les alternatives. Des groupes comme Avril ont même décliné les invitations aux auditions. En parallèle, des start-up spécialisées dans les solvants à base de carbone 100% végétal ont été entendues. Pour elles, remplacer l'hexane pourrait augmenter le prix des bouteilles d'huile de seulement 10 à 12 centimes. Après une semaine de débats chaotiques, aujourd'hui, le vote solennel au Sénat. À partir de 16h30, la Chambre haute se prononce sur la loi sur la fin de vie. Le Sénat refuse toute forme d'aide à mourir. Résultat, les députés pourraient reprendre la main sur cette réforme sociétale. Le premier texte, plutôt consensuel, vise à renforcer l'offre de soins palliatifs. Le second, lui, plus polémique, aborde le suicide assisté et l'euthanasie. Deux évolutions jugées inacceptables par l'aile la plus conservatrice du Sénat. La proposition de loi du député démocrate Olivier Falorni se retrouve vidée de sa substance. Nouvel épisode dans le dossier de l'usine d'incinération de Villejean, un nouveau rapport de l'expert judiciaire a été publié. Toutes les parties l'ont entre les mains depuis novembre. Selon le rapport, le préjudice de l'entreprise italienne Russ, qui avait conçu et installé les chaudières, est évaluée à 25 millions d'euros. L'usine d'incinération de Villejean est au centre d'un litige technique et financier majeur après des malfaçons sur les chaudières, retardant son redémarrage. L'unité de valorisation énergétique devrait fonctionner l'été prochain avec 2 ans et demi de retard sur le planning initial. Rien ne sert de jeter quand on peut broyer. C'est le slogan de Rennes Métropole pour l'opération Sapin Malin, de retour cette année pour donner une seconde vie aux sapins de Noël. À Rennes et dans la métropole, des enclos se sont installés pour récupérer les sapins naturels après les fêtes. Je suis allée à la rencontre des Rennais et Rennaises pour savoir ce qu'ils et elles en pensaient.
Je retrouve avec un sapin en mi-janvier et je sais pas comment faire. Donc il va me falloir une solution pour m'en débarrasser et puis un endroit pour le mettre, quoi, qui est adapté.
Fin janvier, les fêtes sont loin derrière. Mais le sapin, lui, est toujours là. Et comme Igor, beaucoup de Rennais se posent la même question. Où jeter mon sapin? Pour Annick, la réponse est toute trouvée. Fidèle à l'opération Sapin Malin, elle ne la manque jamais.
Quand je vais au Super U, je me dis « Ah, voilà, ils ont installé pour mettre les sapins », ce qui est très très pratique. Je trouve que c'est une excellente initiative et chaque année je fais ça.
Même constat pour Santiago, arrivé récemment à Rennes.
Une fois que les fêtes sont finies, je me suis renseigné pour trouver la meilleure méthode pour déposer mon sapin à un lieu ou endroit plus indiqué pour essayer de donner une deuxième vie.
Cette idée de seconde vie séduit les Rennais et les Rennaises comme Mingui.
Je trouve ça super de revaloriser justement le vivant s'il peut être utilisé derrière, c'est vraiment chouette. Tant mieux, c'est une belle initiative.
Une opération qui fête bientôt ses 10 ans, comme l'explique Carole Bagot, chargée de l'opération.
Donc c'est une opération qui existe depuis 2015 et qui a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est d'apporter un service de proximité et puis aussi de désengorger les déchetteries pour éviter qu'ils apportent leurs sapins.
Sur ces sites de collecte, les enclos sont vidés 2 fois par semaine. Le prestataire, Agir Environnement, vient récupérer les sapins, les broie sur place, puis repart avec le broyat. Mais dans les communes alentours, l'organisation est différente. Chaque commune doit s'organiser par ses propres broyats. Soit le broyage est réalisé sur place, soit un prestataire est sollicité et le broyat est ensuite mis à disposition des habitants. Un système pratique pour certains, comme Claire, qui a déposé le sapin de son entreprise à Vézin-le-Coquet.
Oui, j'ai été récupérer un sac parce que mes parents ont un jardin et du coup ça leur permet de mettre dans les plantes en fait, pour les garder du froid.
Une opération qui connaît un franc succès. L'an dernier, 20 000 sapins ont été collectés sur la métropole, soit 371 mètres cubes de broyat. Et cette année encore, les résultats sont visibles.
Ce qu'on sait, c'est que le niveau des remplissages des enclos sur la ville de Rennes a été très important sur les premières semaines. Donc on peut supposer qu'a priori, il n'y aura pas une diminution en tout cas du nombre de sapins.
Comme ici, dans le quartier de Beaulieu, où une vingtaine de sapins attendent leur seconde vie, dont celui d'Igor.
Maintenant, on va le remettre dans l'enclos avec les autres.
Il ne vous reste plus qu'un jour pour déposer votre sapin dans les enclos. Attention toutefois à respecter quelques règles, un sapin naturel, sans décoration, sans sac et sans neige artificielle. Cycliste à vos vélos, vendredi, Rennes Métropole inaugure la nouvelle piste cyclable entre Montgermont et la chapelle des Fougerets. Elle connecte désormais le réseau express vélo de Rennes-Montgermont aux aménagements du département entre la Mézière et la chapelle des Fougerets. Les travaux lancés en janvier 2024 se sont achevés l'été dernier. Ces dernières semaines ont été consacrées aux finitions, marquage au sol et signalétique. Maintenant, comptez 20 minutes pour Grand Quartier, 33 pour le centre-ville de Rennes depuis la chapelle des Fougerets.
Merci Estelle, à la prochaine pour un nouveau flash.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
L'interview avec Romane ce soir.
Il y a 20 ans, en 2006, le gouvernement de Dominique de Villepin annonçait la création du contrat première embauche, un dispositif censé faciliter l'accès des jeunes au marché du travail et qui instaurait une période de 2 ans durant laquelle un salarié pouvait être licencié sans que l'employeur ait à justifier sa décision. Et ça, chez les jeunes, ça ne passe pas. La réforme déclenche alors une mobilisation massive, l'une des plus importantes de ces dernières décennies, jusqu'au retrait total du texte. Pour en parler, nous recevons Hugo Melchior, habillé d'une veste en cuir au col moumouté. Il est chercheur en histoire contemporaine et membre de la Société française d'histoire politique. Étudiant en L1 d'AES à l'époque, il a participé à cette mobilisation. Bonsoir Hugo.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Pas de souci. En 2006, tu avais une vingtaine d'années. Tu faisais partie de celles et ceux qui étaient directement concernés par ce contrat. Est-ce que tu te souviens du climat qu'il y avait à l'époque ?
Oui, à l'époque, j'étais en première année d'administration économique et sociale. J'avais mon bac en juin 2005 et donc voilà, j'étais en première année. Et au début du deuxième semestre, je reçois un tract distribué par un militant de l'UNEF hein, qui annonce en fait voilà, la création du contrat première embauche hein, qui était l'article 8 de la loi Égalité des chances et qui explique pourquoi est-ce qu'il faut se mobiliser, pourquoi ce contrat de travail qui était destiné aux moins de 26 ans, n'est-ce pas, hein, était un contrat de travail au rabais, scandaleux hein, et qu'il fallait se mobiliser. Et donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, au départ, s'il y a eu mobilisation à Rennes 2, comme partout ailleurs, c'est parce qu'il y a eu des militantes et des militants syndicaux, UNEF, Sud Étudiants, Syndicat des Travailleurs Bretons, CNT, qui se sont mis en mouvement, hein, qui ont cherché à conscientiser, à sensibiliser, hein, pendant plusieurs semaines, les étudiants et les étudiantes de Rennes 2, comme moi, qui n'avaient jamais connu d'expérience, mais qui ne connaissaient pas du tout ce qu'était un mouvement étudiant, hein, une grève étudiante encore moins. Donc, c'est parce qu'il y a eu cette offre militante qu'il y a eu cette demande contestataire ensuite.
Est-ce que tu peux nous remémorer quel était le contexte politique et social à ce moment-là ?
Oui, donc comme vous l'avez très bien dit, c'était Dominique de Villepin effectivement qui était le premier ministre. Hein, on est 15 mois avant la présidentielle hein, de 2007, hein, on est à peu près à la même période qu'aujourd'hui. Hein, vous voyez, donc 2026 à 2006, Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur et donc Dominique de Villepin, premier ministre de Jacques Chirac, hein, président de l'époque. Il avait pour ambition de contester à Nicolas Sarkozy, hein, qui était président de l'UMP à l'époque hein, et leader de la majorité présidentielle. Il voulait contester à Nicolas Sarkozy donc le monopole de la rupture hein, et du bon sens et de l'audace. D'où la volonté justement de réformer hein, le code du travail, en tout cas de proposer hein, ce contrat de travail ultra flexible pour lutter contre le chômage endémique des jeunes, hein, qui à l'époque concernait 20% hein, hein, des 18-25 ans pour ceux qui n'étaient pas étudiants. Donc voilà, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est on va précariser davantage pour donner aux employeurs l'envie d'embaucher. Voilà, c'est le credo néolibéral classique, hein, donc là c'est celui-ci, il voulait avoir des résultats rapides, il voulait que l'année 2006 soit une année utile, comme il le disait. Et encore une fois, on ne peut pas comprendre le volontarisme de Villepin si on oublie la concurrence hein, avec Nicolas Sarkozy. Hein, donc en gros, le déborder hein, sur sa droite, au mépris d'ailleurs de tout dialogue social, parce qu'il faut quand même rappeler que le CPE a vraiment été imposé de façon unilatérale, sans négociation, avec les partenaires sociaux, hein, alors que normalement la loi de 2004, la loi Fillon, obligeait hein, le législateur à négocier en amont avec les partenaires sociaux. Quand il s'agissait de réformer le code du travail, donc ça là-dessus, Dominique de Villepin s'est totalement assis dessus. Et par ailleurs, ce qu'il faut aussi dire, c'est que le CPE contrevenait à la convention de l'Organisation internationale du travail, hein, la convention 158, qui normalement oblige l'employeur à justifier hein, son licenciement. Donc c'est même pas en plus un contrat de travail conforme hein, au droit international du travail, de ce point de vue-là. Donc c'est important aussi de le rappeler.
2006, c'est donc le mandat de Jacques Chirac. Dominique de Villepin, leur premier ministre, annonce une réforme que peu de gens avaient vu venir et surtout à laquelle presque personne n'adhère. Et face au risque de blocage parlementaire.
J'ai l'honneur, monsieur le président, d'engager la responsabilité du gouvernement.
Une archive de l'INA où le premier ministre invoque le 49-3, comme quoi il n'est pas tant démodé que ça. Et ça te fait quoi de réentendre ces mots ? Est-ce que tu te souviens de ce que tu avais pensé à ce moment de cette décision ?
Oui, donc tout à fait. Donc ça intervient. En fait, il y a la première. Enfin, en fait, Rennes 2 vote la grève avec blocage pour la première fois. Hein, c'est la première université à voter la grève avec blocage le 7 février. Hein, c'est un mardi. Il y a une manif hein, qui rassemble 10 000 personnes. Il y a une assemblée générale dans l'amphithéâtre de Briand qui a disparu hein, depuis. Et ça se termine devant les marches du Hall B. Donc c'est un vote quasi unanime. Donc ça, on est le 7 février. Et effectivement, 2 jours après, il y a Dominique de Villepin qui décide d'accélérer, quoi, vraiment pour prendre de vitesse hein, le mouvement syndical et le mouvement étudiant. Et donc, il décide effectivement de passer en force. Donc, c'est effectivement interprété comme un coup de force. Donc, on a un Dominique de Villepin très brutal avec les jeunes salariés, hein, par le truchement du CPE, très brutal avec les partenaires sociaux en niant tout dialogue social, et très brutal avec le débat parlementaire, hein, en recourant à ce 49-3. Donc, effectivement, là, il a achevé de nous convaincre qu'il fallait absolument se mobiliser pour obtenir le retrait. Mais après, hein, pour avoir quand même une idée quand même de ce qu'était ce mouvement quand même, de 10 semaines, de 2 mois, c'est que la première manifestation à Rennes, c'est le 1er février, on est 350, et le mardi 4 avril, donc 2 mois après, on est 40 000. Vous voyez, donc entre-temps, il y a 10 semaines qui vont se passer, et ça va être pareil partout ailleurs. Donc voilà, voilà, on a eu la chance, hein, que ce mouvement connaisse comme ça une tendance haussière, mais ce n'était pas du tout gagné au début, quoi.
On a trouvé justement des archives des manifestations à Rennes à l'époque diffusées pour TV Rennes.
On veut faire usage de la force. Dispersez-vous.
On est libre de vivre tranquillement et non sous les ordres de gens que nous n'avons pas élus comme vous.
Les mobilisations dans les rues sont violentes et sur le campus de Rennes 2, les étudiants et les étudiantes font blocus pendant des semaines. Tu as participé activement à cette grève avec blocage, Hugo. Comment cette mobilisation s'était-elle structurée au quotidien ?
Alors, à la fac, effectivement, donc à partir du 7 février, il y a la grève avec blocage, la grève d'occupation qui se met en place. Donc, faut imaginer 20-25 piquets de grève à l'entrée des bâtiments. Hein, alors que l'idée, c'est vraiment d'obtenir la suspension des cours, hein, de la normalité universitaire, donc faire en sorte que les enseignants ne puissent pas enseigner. Par contre, les enseignants et les personnels pouvaient quand même accéder à leur bureau, hein, donc ce n'est pas non plus fac morte, hein, faut bien s'imaginer ça. Donc il y avait une libre circulation, hein, je veux dire, dans l'université. Par contre, nous, ce qu'on voulait, c'était veiller à ce que les cours ne se tiennent pas. Donc en gros, les étudiants venaient le matin vers 6h, le QG, c'était le hall B. Là, on arrivait, il y avait des camarades qui dormaient la nuit. Hein, c'était une occupation H24, hein, faut bien voir, hein, à ce niveau-là. Généralement, moi, j'arrivais par le métro, hein, parce que j'habitais près de la gare à ce moment-là, comme plein d'autres étudiants. Il devait y avoir, je sais pas, une cinquantaine, une centaine d'étudiants qui dormaient la nuit, quoi, en fait, hein, avec un turnover, avec un roulement. Donc, on arrivait le matin, ouais, très tôt, hein, vers 6h30, 7h, donc dans le hall B. Là, on nous disait, ben voilà, il faut aller tel bâtiment, il y a un piquet de grève. Et puis, en fait, on veillait à ce que les profs ne fassent pas cours. Bon, la grande majorité des profs jouaient le jeu en réalité. Hein, je veux dire, ils faisaient pas grève, mais par contre, ils étaient en soutien. Après, il y a quelques profs qui forçaient avec des étudiants, parce qu'évidemment, le blocage n'a jamais fait consensus. Et évidemment, et ça, c'est tout à fait normal, hein, c'était coûteux pour les étudiants, voilà, précaires ou autres, qui voulaient pas perdre leur année également. Donc, c'était aussi une source de stress. Donc, ça, on pourra venir là-dessus, hein, mais le blocage tout de suite a cristallisé les tensions. La présidence, Marc Gontard, qui venait à peine d'être élu, hein, le pauvre en l'occurrence, hein, venait à peine d'être élu président, il se prend un mouvement de 10 semaines. Bon, lui, il a été sur le plan politique tout de suite en soutien. Dès le 7 février, il va manifester. Mais par contre, en tant que président, effectivement, il ne pouvait pas cautionner, hein, je veux dire, la grève avec blocage. Mais bon, il reconnaissait la légitimité des assemblées générales. Hein, donc en gros, c'était voilà, piquet de grève, assemblée générale 2-3 fois par semaine. Et puis après, les manifestations, les actions de blocage. L'idée, c'était pas de rester enfermé, hein, dans l'université, mais bien de sortir dehors autant que faire se peut.
Est-ce que tu dirais que Rennes 2 a été le fer de lance de cette mobilisation historique ?
Oui, bah, au niveau national, on a été en tout cas à Rennes 2, en tout cas la première université à voter le blocage. Après, tu as eu Toulouse-le-Mirail, Poitiers, et puis après les autres universités ont enchaîné. Au final, finalement, tu as eu une soixantaine, hein, d'universités, hein, qui se sont mobilisées, hein, sur 84, hein, ce qui est absolument colossal. Une cinquantaine de lycées, publics mais également privés, j'aime bien le redire, parce que c'est important de dire que l'enseignement privé s'est mobilisé aussi, hein, plus des collégiens, etc., aussi, qui ont participé avec leurs parents et même des élèves de primaire. Enfin, c'est vraiment aussi un mouvement intergénérationnel. Hein, je veux dire, les étudiants, la jeunesse universitaire n'était pas du tout seule, hein, s'il n'y avait pas eu les salariés, les fonctionnaires, les retraités. Enfin, voilà, vraiment, il faut savoir que très rapidement, le CPE fait consensus contre lui, enfin, en tout cas très largement. En tout cas, De Villepin perd la bataille de l'opinion. Très rapidement, vous prenez les sondages, vous avez une bonne majorité de jeunes, de moins jeunes, qui sont opposés au CPE, qui considèrent que le CPE renforce la précarité, tout simplement, que le caractère scandaleux du CPE paraît évident. Voilà, et que nous, on considère que ça ne doit pas être, effectivement, la précarité au travail n'est pas un mal nécessaire, de ce point de vue-là, contrairement à ce que peuvent penser les néolibéraux. Donc après, voilà, blocage de la fac, et donc effectivement, c'est cette mobilisation qui structure notre quotidien, qui va être le fil rouge de notre existence pendant 10 semaines, quoi.
Est-ce que vous aviez conscience à l'époque de l'ampleur que prendraient ces contestations ?
Ben, comme je te disais, je te dis, la première manifestation des 350, moi je me rappelle même les premières AG organisées par les camarades, par les militants syndicaux dans l'Amphi-Chateaubriand, il y a 250 personnes. Moi je me rappelle François Hollande, pardon, qui n'est pas encore président, qui est premier secrétaire du PS, qui explique, bon, de toute façon, voilà, bon, c'est bien de se mobiliser, mais c'est foutu, hein, l'important ce sera 2007, hein, et la présidentielle, enfin voilà, ils pensaient déjà au coup d'après, donc non, c'était absolument pas gagné. On a réussi, je pense, en votant la grève avec blocage le 7 février en premier, de montrer que c'était possible, et que c'était ça la méthode en fait, que de toute façon face à un gouvernement aussi déterminé, qui ne lâcherait pas, hein, qui était droit dans ses bottes, hein, et qui dirait qu'il n'y aurait pas de retrait, on ne pouvait pas se contenter de manifester comme ça une fois de temps en temps, il fallait d'abord bloquer la fac, manifester en étant le plus nombreux dans la rue, et articuler nombre et radicalité. Je pense qu'on a essayé de mettre ça en place aussi à Rennes, et ça s'est passé partout en France en réalité, hein. Ça veut dire que les manifestations de rue pacifiques de masse, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. D'où les actions de blocage économique et d'où les émeutes. De ce point de vue-là, la stratégie émeutière, moi à l'époque j'avais 18 ans, moi je la revendiquais totalement, ça faisait pas du tout consensus en interne, hein. Il y avait des vrais débats, des vrais désaccords, hein, parce qu'il y avait le risque que ça décrédibilise, que ça donne une mauvaise image au mouvement, mais il était clair que pour nous, et pour moi en tout cas à l'époque, que le répertoire d'action devait pas être subordonné au seul respect du cadre légal. C'est-à-dire qu'il fallait être capable de se mettre en marge de la légalité, y compris en assumant des interactions violentes avec les forces de l'ordre. Il faut être honnête, hein, c'est pas les forces de l'ordre qui venaient attaquer les cortèges, hein, c'est nous qui, après que la manifestation eût été terminée, qui allions les provoquer, qui allions les chercher pour créer justement, pour faire en sorte que la tension ne retombe pas en fait. Voilà, même une fois la manifestation terminée. Donc ça, je pense qu'on a vraiment, le mouvement a réussi parce qu'on a réussi justement à articuler massivité et une forme d'illégalisme en réalité.
Une mobilisation réussie, mais qui a quand même divisé, tu le disais tout à l'heure, on se replonge dans les archives de TVRN.
Petit bug, ouais. Dans le PAD, Romane, peut-être tu peux nous, ouais, raconter ce qu'on pouvait y entendre.
Eh ben, on entendait des étudiants qui n'étaient pas du tout d'accord. Il y en a qui voulaient passer leurs examens pour avoir leur diplôme et pour ensuite travailler, tandis que d'autres disaient qu'il fallait continuer de se mobiliser. Est-ce que tu te souviens comment cette division elle a fini par fragiliser la solidarité du mouvement et les débats internes?
Bon, après, parmi les étudiants effectivement, qui voulaient absolument aller en cours et qui votaient contre le blocage, un grand nombre allait manifester, hein, je veux dire, malgré tout. Enfin, tout le monde était, à part quelques-uns, opposé au contrat première embauche. Après, c'était qu'est-ce qu'on priorisait ? Nous considérons effectivement que le temps des cours et le temps de la lutte, c'était pas conciliable. En fait, il fallait faire un choix. Qu'en fait, enfin, on ne pouvait pas continuer à dépendre en fait de la minorité enseignante. Enfin, si les profs font grève, on a du temps pour pouvoir se mobiliser. Sauf que, comme ils ne faisaient pas grève, il fallait que ce soit nous en fait qui remettions en cause et qui suspendions la fonction éducative de l'université par justement la grève avec blocage. Mais ça. Je te dirais que dans toutes les mobilisations, encore en 2023, encore en 2016 contre la loi travail, je veux dire, la question de la grève des cours, ça suscite toujours des tensions. Et vous imaginez, hein, je veux dire, dès la première semaine, il y avait des tensions. Donc au bout de 10 semaines, c'était extrêmement compliqué. Après, les assemblées générales ont toujours été très très massives, à part une fois, si on est un peu honnête, la grève avec blocage a toujours été largement majoritaire, hein. Enfin, on a eu des assemblées générales jusqu'à 5000 personnes quand même, hein. Je veux dire, c'est pas des AG de 200-300 personnes, hein. C'était des AG extrêmement massives, tout le monde pouvait venir. Après, il y avait le débat sur vote à main levée, ce qu'il fallait compter avec la carte. Bon voilà, nous on était plus dans cette idée effectivement de vote à main levée, on débat ensemble, donc on vote ensemble, hein. pas de façon séparée. L'autodétermination, l'autogouvernement des étudiants, l'autogestion des étudiants par eux-mêmes, ça a ses limites, on peut évidemment critiquer, mais je trouve que c'était aussi une bonne façon de montrer que la démocratie étudiante, ça pouvait aussi s'exprimer comme ça, hein, par ces assemblées générales.
Selon toi, en quoi ces mobilisations font-elles écho aux mobilisations étudiantes récentes à Rennes 2 ? On peut penser par exemple au mouvement Bloquons tout en septembre dernier.
Bah, disons que le rapport que je ferai justement dans l'idée de bloquons tout, c'est que nous effectivement on ne s'est pas contenté en 2006 de manifester en fait, même si évidemment c'était absolument indispensable et on l'a été, hein, d'être le plus grand nombre dans la rue, d'être le plus massif. Et on l'a été en fait, dès le début, quoi, le 7 février, puis encore plus au mois de mars, jusqu'au mois d'avril, quoi, le 4 avril, hein, où ça a été quand même voilà, l'acmé. Mais qu'il fallait, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, articuler nombre et radicalité, d'où le fait d'aller occuper la gare, d'où le fait d'aller bloquer la rocade, hein, qu'on a fait également à deux reprises. Voilà, multiplier les actions pour rendre la situation politiquement intenable, en fait. Et en fait, on le faisait à Rennes, ça n'avait que de sens de le faire à Rennes parce que ça se faisait ailleurs aussi, quoi, hein, dans d'autres villes, à Brest, à Caen, à Toulouse, à Paris. C'était vraiment ça, cette synergie, en fait, hein, au niveau national. Et ce qui fait qu'à un moment donné, politiquement, pour Dominique de Villepin, c'était devenu impossible. Hein. Il a été lâché par sa majorité. On lui a dit d'arrêter.
Eh bien, merci Hugo d'avoir été parmi nous.
Ben merci beaucoup pour votre invitation.
Le mouvement Tissez-Peu reste l'un des épisodes les plus marquants de la mobilisation de la jeunesse en France. Et on te retrouvera, avant la sortie de ton prochain livre, Hugo, Les Caddies de la colère, une grève exemplaire dans la grande distribution, un ouvrage qui revient sur la grève des employés de l'hypermarché Mammouth. Sa publication est prévue le 17 avril prochain. Et on te reçoit pour en parler le 7 avril, dans 6 heures avant minuit. Merci.
6 heures avant minuit.
Nouvelle chronique aujourd'hui, ça s'appelle « Ça donne le ton » et c'est signé Florine.
Internet ou bien l'utopie émancipatrice et féministe morte dans l'œuf. En fin d'année 2025, pour exister sur LinkedIn, des femmes se collaient une fausse moustache. Pas pour suivre une traîne ou pour rigoler. Non, c'est loin d'être aussi drôle. C'est tout simplement pour être vue. Parce que ne pas être un homme, ça plaît pas trop à LinkedIn et son algorithme. Et ça, ça donne le ton. Je suis Florine et ce soir on parle d'algorithmes qui ne libèrent personne, à part peut-être le patriarcat et le masculinisme déjà bien décontractés. Alors on va être clair dès le départ. On nous a vendu Internet comme un espace d'émancipation, de diversité, de voix enfin entendues. La véritable utopie technoculturelle qui faisait rêver dans les années 70. Mais dans les faits ça donne quoi ? Eh bien c'est pas tout joli. On a fabriqué des algorithmes, on les a implantés dans une société sexiste et on a été surprise et surpris de voir le sexisme se démultiplier. Mais non, vraiment, tellement surprenant. Sur TikTok par exemple, une sociologue comme Hélène Bourdelois montre que les algorithmes censés simplement recommander des contenus susceptibles de plaire, finissent surtout par mettre en avant ce qui fait réagir le plus. C'est-à-dire les clichés, les clashs, le buzz, les discours virilistes, les blagues misogynes. On se souvient encore d'Abrèche Frère qui abrégeait les contenus qu'il jugeait trop longs et qui, par pur hasard, étaient très souvent ceux de femmes. Réduire la parole des femmes, c'est pas très innovant, mais on s'attendait quand même à mieux en 2025. Ce n'est pas un hasard si les contenus qui marchent bien sont ceux où les femmes sont hypersexualisées, ridiculisées et réduites à des corps. C'est une stratégie qui vise le profit pour l'entreprise. Plus tu es choqué, plus tu restes, et plus tu restes, plus tu vaux cher. Donc passons-nous de l'éthique, pensons plutôt fric, c'est vrai que ça paraît tout de suite un peu plus logique. Et pendant que les plateformes jurent qu'elles aiment et qu'elles essayent au maximum de promouvoir la diversité, le Haut Conseil à l'égalité écrit noir sur blanc le doux terme de « menace masculiniste » dans son rapport 2026 sur l'état du sexisme en France. Une menace. Pas une trend, pas deux ou trois contenus sur Internet, une menace avec un très grand M, comme celui de la manosphère, qui vit de très beaux jours et qui prospère dans cette ambiance. La manosphère, c'est un regroupement de communautés en ligne destinées aux hommes et par des hommes, qui, sous couvert d'humour, de mèmes ou de conseils, diffusent des discours antiféministes. Au choix, pas de jaloux entre incels, des hommes célibataires qui reprochent aux femmes d'être responsables de leur situation, coach en virilité, influenceur antiféministe, tout ce petit monde sait exactement comment jouer avec les algorithmes pour se rendre viral. Comme le très très connu Alex Hitchen, qui expliquait dans sa large et devant sa large communauté qu'une femme n'avait absolument rien à faire en dehors de chez elle après 22h. On se croirait dans une archive INA des années 30, ça fait peur. Sur TikTok, tu likes une vidéo où est écrit « Lol, les féministes exagèrent » et derrière, t'es offert un tunnel de contenu masculiniste et des conseils pour mettre les femmes à leur place. Et après, on s'étonne que les ados tombent dans des bulles idéologiques. Non, ce n'est pas l'ado le problème, c'est la machine qui lui tient la main. Et puis, il y a le cas LinkedIn. LinkedIn, ce fameux théâtre d'entreprise où tout le monde est passionné partout. Sauf qu'en 2025, des femmes ont testé quelque chose de très simple, se déclarer homme sur la plateforme, changer leur prénom pour une version masculine et parfois ajouter une petite moustache en photo de profil. Le résultat ? Leur visibilité a explosé. Plus de vues, plus de likes, plus de commentaires et plus d'abonnés. La même personne, exactement le même CV, les mêmes expériences, mais avec un genre différent. On obtient soudain un peu plus de place dans le grand marché de la visibilité professionnelle. LinkedIn s'est alors défendu et ne jure qu'ils ne prennent pas le genre en compte. Mais lorsqu'en pratique, tu dois te transformer en homme pour exister dans l'algorithme, on appelle ça comment ? Une expérience sociale ? Ou une épreuve à ciel ouvert que le système penche lourdement du côté masculin ? Parce que l'algorithme, ce n'est pas juste du code. C'est du code qui apprend sur des données où des hommes sont déjà surreprésentés au poste de pouvoir. Plus likés, plus cités, plus considérés comme experts. Donc oui, quand tu donnes ça à une machine, tu optimises la visibilité. Tu obtiens une machine à perpétuer l'injustice. Et dans le domaine de l'amour, c'est mieux ? Eh bien, bah, toujours pas. Regardez Tinder. Des journalistes comme Judith Duportail et des chercheurs et chercheuses ont enquêté sur le fonctionnement de l'application et les recherches ont été très fructueuses. Scoring, d'attractivité, priorisation de profils qui génèrent beaucoup de likes et mise en avant de ceux qui performent le mieux. Dans une société déjà remplie de stéréotypes de genre qui valorisent certains corps, certaines couleurs de peau ou bien les rôles masculins et féminins, quand on laisse un algorithme optimiser ce qui marche, ça donne une application qui reproduit les mêmes normes. L'homme actif, sûr de lui, qui choisit et qui agit. Et puis la femme jolie, disponible, jugée sur son apparence avant tout. Et maintenant, on ajoute une nouvelle couche, les IA génératives. Partout, des enquêtes montrent que la même chose quand on demande à une IA de générer un PDG. Elle donne très majoritairement un homme. On demande une infirmière, l'IA génère une femme. Ou bien, quand on demande une assistante, on génère également une femme, qui en prime sourit. Quelle chance. On ne parle pas juste d'images drôles, on parle de machines qui vont être utilisées pour recruter, pour produire des contenus éducatifs, excusez-moi, pour créer des pubs, des discours politiques. Et qui, par défaut, vont reproduire en boucle l'idée que le pouvoir est masculin, que le soin est féminin, que l'homme décide et que la femme écoute et s'exécute. C'est ça, la violence numérique silencieuse. Pas besoin d'insultes ni de menaces directes, juste un décor permanent dans lequel les femmes sont systématiquement rangées dans les mêmes cases. Alors oui, Internet est un pharmacon, à la fois poison et remède. Bien sûr, il y a eu MeToo, les communautés féministes, les espaces de parole qu'on doit au numérique. Mais on ne peut pas faire semblant de ne pas voir le revers de la médaille. Une infrastructure technique qui amplifie aussi le harcèlement, le sexisme ordinaire, les campagnes antiféministes et la montée du masculinisme. Parce qu'au fond, de quoi on parle ? D'outils qui sont représentés comme neutres. Les plateformes se soustraient à leurs responsabilités et nous disent que ce n'est pas eux, c'est les utilisateurs qui posent problème. Mais ce sont elles qui décident de ce qui est recommandé, et qui ont laissé le sexisme devenir un carburant comme un autre pour faire marcher leur entreprise. Alors oui, ce soir le ton est assez accusateur. Tant que les plateformes et les concepteurs d'IA ne seront pas obligés de rendre des comptes, de mettre des garde-fous clairs sur les contenus qui sont promus, les femmes ne seront pas libérées par Internet. Mais elles auront juste changé de décor pour subir les mêmes violences, et en prime, en plus rapide, en plus visible et en plus rentable. Et tant qu'on laisse ce système tourner en roue libre, chaque page pour toi affichée sur nos écrans devrait s'entendre plutôt comme une page sous forme de question, pour vous ou contre vous. C'était Ça donne le ton. Merci pour votre écoute.
Merci à toi Florine, à la prochaine j'espère. On va jeter une petite oreille sur le répondeur.
Le téléphone.
Allô, allô.
Radio Sauvage.
Que chi, que dalle, nada.
Nul.
Nul. Nul sur 20. Laissez-nous un message vocal. 02 30 96 25 35. Je vous laisse pas le choix. C'est comme ça. Demain, je veux entendre un message sur le répondeur. Voilà. Sinon, je me fâche tout rouge. Merci, chers auditeurs et chers auditrices.
Ça fait peur.
Merci, Laura, pour la technique. Peut-être demain encore, qui sait. C'est bien pour une première. Bravo. Laura, stagiaire à Syllab, à la technique ce soir, assistée par Maude. Bravo à vous deux. À demain dans 6 heures avant minuit.
Radio Campus Rennes.
Radio Campus Rennes.
J-11 avant les 30 ans de la Radio Syllab.
C'est festif.
La radio sauvage.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure très
bien. 6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.